Bah, hier, tout planté, tout arrosé ce matin.
Et t'as
tout
arrosé. Et t'as fait quoi maintenant?
Et j'ai remis l'abat dessus pour que ça.
T'as remis, hein?
Ça chauffe, oui, j'ai remis. Hier, je sais d'or. Hier soir, tac, j'ai remis. Ce matin, tout arrosé dedans. Propre.
Ouais, mais pas trop. Mais non, arrose plus tant que ça sort pas, hein. Il faut arroser quand ça sort après.
Et cet après-midi, je mets des fumées dans le jardin et demain après-midi, Moon, il monte avec le motoculteur. Une heure de temps.
Il vient,
une
heure de boulot. Il vient, il t'a dit.
Une heure. Et il mange avec moi demain midi.
Eh ben oui, ça, c'est de l'agriculture familiale. Et oui, il faut le dire comme ça. C'était à la montagne, mais ça se passe partout dans le monde. Et bien sûr, nous y reviendrons. CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement. Parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes nous-mêmes le changement. Avec Xavier Chocron et Jonathan Kietza, la technique, assisté de Jérôme Boulet. Je n'oublierai pas l'ami Albert Hook. Christophe Imbert réalise l'émission. Et on va commencer comme d'habitude par une petite humeur, car dans une société ancrée dans la compétitivité, l'innovation et la modernité, les artistes, eh bien vous savez, c'est comme une haie d'aubépine sur la plaine Beauceronne. Objectivement, ça ne sert à rien. Bah oui, vous voyez les intermittents du spectacle, hein, que des parasites. D'ailleurs, nous en faisons partie, hein, nous les producteurs de France Inter, mon bon monsieur. Et pourtant, ils pourraient avoir une utilité à la fois insoupçonnée et bénéfique, ces artistes, pour la planète. Tandis que les politiques se montrent pour le moins frileux devant le réchauffement climatique, les artistes, eux, paraissent beaucoup plus réceptifs à cette menace. On pourrait même dire qu'ils font feu de tout bois devant ce danger qui laisse de marbre les groupies de Claude Allègre. Le quotidien Libération nous le rappelait samedi dernier en braquant le projecteur sur ces plasticiens, écrivains ou rockers engagés à réduire la montée croissante du thermomètre qui, à coup de rapport du GIEC, bien fait régulièrement la une de l'actualité. L'artiste, il est vrai, se doit d'être toujours dans le vent, donc on peut par conséquent imaginer qu'il en pince pour les éoliennes. Bref, certains de ses amis de la vieille Gaïa ont profité de la conférence de Lima qui vient de s'achever, pour tenter de sensibiliser les consciences. C'est ainsi qu'un festival baptisé Futuro Caliente, autrement dit Futur Chaud, a été organisé pour l'occasion. Les artistes toutefois n'ont pas attendu ce symposium de Lima pour tenter de renverser la vapeur de l'indifférence. Ils sont du reste de plus en plus nombreux à emboîter par exemple les pas du groupe Radiohead. Ces musiciens qui ont fait le choix pour leur concert d'utiliser uniquement des spots à LED, bien moins voraces en électricité, mais surtout ils jettent leur dévolu sur des salles aisément accessibles en transport en commun et incitent également leurs fans à venir à vélo. Résultat, le groupe a considérablement réduit le bilan carbone de ses tournées, et oui, parce qu'évidemment, en général, là où on bute, c'est sur les spectateurs qui viennent en voiture. Toujours en musique, les Eurockéennes de Belfort ont mis un terme à l'enfouissement à coups de bulldozer et a même sur le site de tous les gobelets en plastique abandonnés sur place par les festivaliers. Oui, le passage au gobelet consigné, lavable, réutilisable, a résolu le problème. Ça se fait dans de très nombreux festivals. Comme quoi, on peut aimer le son saturé des guitares sans pour autant se comporter comme des gorées. Et puis, parce que la réalité scientifique est généralement assez complexe pour déclencher l'adhésion du plus grand nombre, eh ben, il n'est pas absurde de chercher à y parvenir à travers l'art, en concevant une narration qui va toucher la sensibilité de ses contemporains. L'artiste réussit souvent là où l'énoncé des rapports du GIEC demeure par trop abstrait. Et c'est la méthode qu'avait employée le plasticien Olafur Eliasson en disposant à Copenhague 12 blocs de glace en cercle afin de former un cadran qui fondait inexorablement comme la banquise de Groenland dont les blocs étaient issus. Il y avait ainsi symbolisé l'horloge du réchauffement climatique. Alors apparemment, il faudra encore pas mal d'initiatives artistiques et citoyennes pour espérer maintenir sous la barre des 2 degrés, même si on n'y croit pas trop ce mercure qui s'emballe, mais sait-on jamais. D'ailleurs, une imitation tout aussi improbable vient de survenir, le plafonnement des cachets des acteurs français. Oui, alors si on parvient à encadrer la démesure, eh bien tout espoir pour la planète reste gentiment permis.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Agriculture familiale au menu ainsi que la biodiversité avec cet ouvrage qui est signé François Le Tourneux et Nathalie Fontrelle, les chroniques du vivant. Mais on va débuter par notre petite actualité.
Chim chimini, chim chimini, chim chim chiri. When you're with a sweep, you're in glad company.
Nowhere is there a more happier crew than them what sings chim chim chiri, chim chiru.
Chim chim.
C'est un délice, mais oui, c'est Noël, donc c'est Mary Poppins, c'est comme c'est Noël et c'est aussi Frédéric Danhé. Bonjour Frédéric Danhé.
Voilà. Bonjour Frédéric Chessou, bonjour
à tous. Eh bien oui, écoutez, Tchem Cheminée, c'est très bien parce qu'on va parler donc des cheminées qui nuisent à notre santé. Votre cheminée tue. Alors on ne met pas encore ça comme sur les paquets de cigarettes, cher Frédéric, mais donc on a bien vu donc la polémique. D'un côté, encouragement à l'énergie bois de la part donc de Ségolène Royal. On rappelle que 7 400 000 foyers, sans jeu de mots, se chauffent au bois aujourd'hui. Et puis bah, de l'autre côté, quand même, un véritable problème de santé. Donc un petit peu votre point de vue sur cette affaire.
Écoutez, sur le fond, on avait raison de vouloir interdire non pas les cheminées, mais les cheminées à foyer ouvert, parce que dans la vallée de l'Arve, par exemple, ah oui, c'est la principale cause d'émissions de microparticules, parce que également, même au centre de Paris, ce qui sort des cheminées est équivalent en termes de microparticules respirées à la circulation automobile.
Dans ce que l'on parle effectivement de toutes ces microparticules, c'est-à-dire que vous avez celles qui font moins de 2
micromètres.
Voilà.
Moins de 10 micromètres, et effectivement les plus dangereuses, c'est celles qui font moins de 2,5 micromètres.
Et bien là, ça correspond à 32% quand même des particules fines en région parisienne.
Hein. Voilà, c'est ça. Bon, après, il faudrait tirer la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire interdire aussi les pizzerias au feu de bois dont les cheminées ne passent pas par des postes de post-combustion, et puis interdire les mobylettes qui ensuite vont transporter les pizzas.
Comme vous êtes.
Oui. Voilà. Non, mais c'est sur le fond.
Et le chauffage urbain au fioul aussi à ce moment-là. Enfin,
il faut interdire le chauffage au fioul. Il faut aussi peut-être interdire les pneus, parce que dans les microparticules, il y a les résidus des pneus qui sont à raser, à braser sur la chaussée. C'est un poste important. Voilà. C'est le cœur et la raison. La raison, c'est ça, mais le cœur, t'es quand même joli, un feu de cheminée, surtout vers Noël.
Ah oui.
Bon, mais moi, je ne sais pas trop quoi vous dire, Denis. Oui, sur le fond, on a raison de les interdire. Sur la forme, bah, je vais essayer de mettre tout le monde d'accord. L'idéal, en fait, ce serait d'interdire les feux de cheminée quand on est sous un anticyclone, parce que là, les cheminées tirent mal et les microparticules ne s'envolent pas. J'ai fait l'expérience chez moi. Par contre, quand on est sous une bonne vraie dépression, les cheminées tirent bien et les microparticules s'en vont ailleurs. Bon, voilà. On ne fait que déplacer le problème, mais en tout cas, on ne contamine pas son voisin.
Bon, anticyclone, dépression, donc ça peut être une solution. Je ne sais pas si ça va être adopté. Parlons maintenant de l'autre actualité, donc Xynthia. On est à la Faute-sur-Mer, ancien village de paysans. Les premières villas d'Estivant apparaissent entre les deux guerres. Et donc, pendant une quarantaine d'années, de 1957 à 99, il n'y a pas eu une tempête. Et puis, la fièvre du foncier, et on a le sentiment qu'on a juste oublié la mer là-bas.
Ben oui, c'est ça. Et le maire, alors la justice a dit qu'il était responsable. Effectivement, il est responsable. Effectivement, il doit sans doute aller en prison. Simplement, le 4 ans de prison, ça fait beaucoup par rapport à ce qui se faisait avant. Et je pense que là, la justice vient de donner un message à la société en disant attention, on peut plus être aussi responsable qu'avant. Du coup, je suis convaincu, pour un peu connaître le dossier, que le maire paye pour tout le monde. Il paye pour une irresponsabilité générale, vous l'avez dit Denis, pour des habitants, vous et moi, qui estiment normal d'aller habiter sous le niveau de la mer, dans des endroits, dans des zones où auparavant il n'y avait que des moutons et aucun pavillon. On a aussi oublié le préfet qui était censé exercer le contrôle de légalité sur les permis de construire. On a aussi sans doute oublié les élus locaux qui ont sans doute fait pression sur le préfet pour qu'il oublie de chausser son képi. Le maire est en train de payer pour tout le monde. Il est en train de payer pour des très 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 mauvais choix de société. C'est un peu... Donc, qu'il ait été...
Ça ne l'exonère pas, on est bien d'accord. Ni sa responsable à l'urbanisme, sa numéro 2, qui elle va prendre 2 ans, quoi.
Exactement. Oui. Simplement, il n'est pas le seul responsable. Le problème, c'est ce qui a été dit tout à l'heure au journal, c'est que si cette décision fait jurisprudence, il n'y aura plus un seul candidat sur les listes des mairies. Ça, c'est une certitude. Je suis très surpris que les autres élus locaux, que le préfet, non pas le préfet de l'époque, mais le préfet qui avait exercé son mandat pendant ces phases d'urbanisation, je suis très surpris que tous ces représentants de l'État et du peuple n'aient pas été convoqués au tribunal. Le maire est le seul. C'est assez étonnant.
Alors, il y a aussi donc cette fameuse petite case que nous avons tous sur nos polices d'assurance, qui est la case CatNat, c'est-à-dire catastrophe naturelle. Donc ça, c'est une loi Taziev de 1982. Donc ça relève évidemment de la solidarité. Alors d'un côté, on se dit oui, c'est formidable parce qu'on est tous solidaires avec cela, mais il y a aussi peut-être une espèce de déresponsabilisation du problème.
Ah bah c'est évident. Alors la casse CatNat, c'était 2% du montant de nos polices en 82, c'est 12% aujourd'hui. Ce qui veut dire que non pas les catastrophes naturelles augmentent, mais que les indemnisations augmentent. Et donc, quand on prend effectivement un arrêté de catastrophe naturelle systématiquement à la moindre inondation, ça déresponsabilise tout le monde. C'est ce que disent même les assureurs. Et je suis désolé, dans ce qui s'est passé avec Xynthia, il y a une part de catastrophe naturelle, c'était un événement exceptionnel, mais il y a une part qui n'a rien de naturel, c'est la part de notre irresponsabilité, c'est ce qui repose sur notre vulnérabilité, qui est accentuée par l'absence de culture du risque. Moi, je prône tout simplement que dans certains cas, l'État, pour donner un exemple, vu que l'État vient de donner un exemple là, avec ce maire, que l'État ne signe pas, ici et là, un arrêté de catastrophe naturelle, simplement pour qu'on ait bien en tête le coût de notre irresponsabilité. Et je pense que c'est vers cela qu'on va, parce que les assureurs ne cessent de sonner l'alarme, en disant, nous on indemnise de plus en plus, c'est trop, il faut que ça cesse, et pour que ça cesse, il faut un moment ou un autre, on ait une idée du coût de notre irresponsabilité, une idée du coût de notre bêtise in fine.
Voilà. Donc, non, mais c'est jamais très simple, parce que derrière tout ça, on rappelle, hein, solidarité, c'est une très belle idée au départ, mais après, si on tire sur la corde, et ce qui se passe aussi dans le Var, ce qui se passe aussi, c'est à peu près le même phénomène. Merci beaucoup, Frédéric Noé, on vous retrouve très bientôt. Souchon-Voulzy, ça vous va à tous? Ben oui, allez. C'est bien, ça c'est une chanson doudou, voyez, une chanson édredon, Souchon, Voulzy. Donc derrière les mots, vous êtes bien sur France Inter, vous êtes bien dans votre magazine de nature et d'environnement. CO2 de mon amour, au nord de la Loire, il pleut, je pense que c'est un petit peu mieux par certains endroits pour vous. En tout cas, nous allons parler à la fois d'agriculture familiale et de biodiversité. Tout ceci se rejoint avec deux invités. François Le Tourneux est avec nous, qui connaît bien cette chaîne France Inter, qui avec Nathalie Fontrelle, tous les dimanches matins à 7h55, participe à Planète Environnement. Et donc, vous avez sorti cet ouvrage tous les deux, Chronique du vivant, les aventures de la biodiversité. Et puis Henri Rouillet d'Orfeuille. Pardonnez-moi. Et donc aussi avec nous, membre de l'Académie de l'agriculture et agronome, et puis aussi il a été, on va dire, un peu fer de lance de cette année de l'agriculture familiale. Alors François Le Tourneux, nous avons toujours besoin, nous, d'être reliés donc avec la nature, puisque c'est un peu un des thèmes favoris avec Jean-Marie Pelt, avec un homme que l'on peut saluer qui était Robert Barbeau, Jacques Weber aussi, des gens du muséum qui nous ont beaucoup initiés à cela. C'est ce que vous avez voulu faire avec cet ouvrage. Donc les aventures de la biodiversité. Alors, il y a plein d'histoires, François Le Tourneux. Je vais quand même rappeler aussi que vous avez été le président du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc vous êtes très très vigilant aux espèces qui sont menacées aujourd'hui. Et puis il y a une très belle histoire de bousier. Racontez-nous, moi j'ai envie de savoir ce que c'est que le bousier et la galaxie.
Oui, Denis, on s'est dit que on était inondé de concepts sur la biodiversité et que c'était plus amusant de raconter des petites histoires comme autrefois, des petites histoires où il y a une morale.
Oui.
Alors, l'histoire du bousier, d'abord les bousiers, faut se rappeler qu'ils sont très, très importants et que le fait d'utiliser des vermicides et des insecticides dans les alpages, ça fait que les bouses de vaches ne sont pas décomposées parce que les bousiers meurent. Dans l'hémisphère austral, il y a un bousier, enfin, il y en a dans toutes les zones subtropicales, il y a un bousier qu'on appelle pilulier parce qu'il dès qu'une bête fait une crotte, il fait une boulette avec cette crotte et il la pousse très vite.
Mmh.
Alors, contrairement à ce qu'on pensait, il n'a aucune idée de l'endroit où il va.
Mais attendez, il la pousse pour pas que les copains la piquent ?
Alors il la pousse pour justement que les autres bousiers la lui prennent ou pour que les prédateurs de bousiers trouvent une concentration de bousiers près de la crotte et se fassent un banquet.
D'accord. Donc, parce qu'on rappelle qu'il met ses petits œufs à l'intérieur et il se nourrit.
Cette boulette, elle lui sert à pondre à l'intérieur et les larves du bousier vont se nourrir du contenu de la boulette. Alors il sait pas où il va, mais il a intérêt à y aller tout droit parce que plus il va droit, plus il ira loin.
Oui.
Alors, on s'est posé des tas de questions sur la manière dont il faisait pour aller droit, et les scientifiques lui ont dressé tout un tas de pièges avec des tunnels, des chicanes, et puis, assez vite, ils se sont rendus compte que le bousier grimpait sur sa boulette avant de partir, et que périodiquement, il remontait sur sa boulette et il faisait un petit tour, une petite danse. Alors, ils ont assez vite compris que le bousier s'orientait sur la polarisation de la lumière du soleil. Il remarquait la lumière, il prenait un axe, et cet axe, il y était fidèle, jusqu'au moment où il trouvait un endroit propice, il posait sa boulette, il pondait dedans. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est la nuit ? Parce que les bousiers sont actifs la nuit. Bon, oui. On s'est dit, il n'y a pas de problème, c'est la lune. Alors effectivement, quand il y a de la lune, le bousier s'oriente sur la lumière polarisée de la lune. Mais voilà que le bousier est actif même quand il n'y a pas de lune. Alors les scientifiques, qui sont gens d'imagination, ils ont placé le bousier dans un planétarium, c'est-à-dire une salle dans laquelle on représente le ciel sur une grande coupole. Et puis ils ont éteint les étoiles les unes après les autres. On se doutait bien que le bousier n'avait pas repéré la Croix du Sud, qui est l'équivalent austral de notre étoile polaire. Mais on se demandait comment il faisait. Eh bien, pour la première fois, on a trouvé un animal qui s'oriente sur la Voie lactée. C'est la lumière polarisée de la Voie lactée qui permet au bousier, quand il est la nuit sans lune, de s'orienter. Alors on peut se demander comment fait le bousier quand il n'y a pas d'étoile, c'est-à-dire quand il pleut. Mais je vous rappelle qu'on est dans le désert austral et que ça n'arrive que rarement. Et là, les scientifiques n'ont pas compris ce que faisait le bousier, s'il était actif ou pas, ou s'il tournait en rond. En tout cas, c'est assez magique de voir que, comme beaucoup d'animaux, un insecte a une boussole intérieure, un système d'orientation, qui n'est pas le magnétisme terrestre comme les oiseaux, qui n'est pas d'autres systèmes que nous
utilisons. L'odorat comme les saumons.
L'odorat comme les saumons, qui ont en mémoire l'odeur de l'estuaire du fleuve où ils sont nés, mais que le bousier, lui aussi, a un système d'orientation extrêmement sophistiqué pour s'orienter.
Voilà, c'est une de ces nombreuses histoires dans ces chroniques du vivant, donc aux éditions Buchet-Chastel. Ça nous fait un lien, Henri Rouillet d'Orfeuille, parce que lorsque l'on parle d'agriculture familiale, on a aussi besoin de cette fameuse décomposition. Donc vous avez été à la tête de cette année de l'agriculture familiale. Et juste faire d'abord un premier point, une définition, parce qu'on va vous dire, attendez, moi je suis dans la Beauce, nous sommes trois, on a 400 hectares, je fais de l'agriculture familiale après tout. Donc quelle définition on peut donner de l'agriculture familiale, s'il vous plaît?
Bon, d'abord, la définition, il faut la chercher au niveau de l'exploitation familiale. Tout ce qui n'est pas l'exploitation, c'est de l'accompagnement de l'agriculture, mais c'est pas le cœur même. Et donc, c'est ce caractère familial, bah, c'est simplement que, enfin, dans la tradition, une famille, une exploitation, donc on travaille en famille. Aujourd'hui, ça peut se réduire même à une personne, mais ce qui compte, c'est qu'il y ait une sorte d'unité entre la gestion du capital, la gestion du travail, et puis la gestion de l'exploitation. Hein. Et c'est une immensité, une catégorie immense, très diverse. Mais quand on regarde ce qu'il y a en face, c'est-à-dire l'entreprise de production agricole, qui est très minoritaire, où là vous avez des actionnaires, vous avez des salariés et vous avez un management de salariés. Hein, et au fond, alors là, on voit qu'il y a une vraie différence. Le caractère familial fait différence, vraiment.
Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a à peu près 520 millions de fermes familiales dans le monde, vraiment de fermes, donc ça fait évidemment encore plus de monde. La majorité, c'est moins de 2 hectares. Hein, c'est ce que
72% des exploitations ont moins d'un hectare.
Ouais.
90% des exploitations chinoises, moins d'un hectare. 50% des exploitations indiennes, moins d'un hectare.
Ouais. Et donc 60% de la population en Chine aussi se nourrit grâce à cette agriculture familiale. Donc c'est très important.
Près de 60% de Chinois sont des exploitants, sont des paysans.
Ouais.
Pas loin de 50% des Indiens et environ 65% des Africains.
Oui.
Vous voyez ?
Et alors maintenant, donc, c'est cette année d'agriculture familiale que vous avez pilotée. Quels sont un peu les retours que vous avez aujourd'hui ?
Bien, si vous voulez, d'abord, il y a eu un coup de projecteur sur ces agricultures familiales.
Oui.
Pour beaucoup de grands... des institutions ou de grands pays, au fond, c'est le caractère familial, c'est un archaïsme. Hein, pour eux, ils disent, bon, il n'y a pas d'aéronautique familiale, pourquoi est-ce qu'il y aurait une agriculture familiale? Et en fait, c'est quand même, d'abord, c'est 95% des exploitations sont familiales, c'est 70% de l'alimentation, c'est donc une grande partie de l'emploi mondial.
C'est 70% de la production alimentaire mondiale, hein,
ouais,
c'est ça que
vous 70% comprendre. De l'alimentation
ouais.
vient des exploitations familiales.
Ouais.
L'autoconsommation, mais même l'essentiel de ce qu'on trouve dans nos supermarchés. En France, l'agriculture est familiale à 98%. À
oui.
part le champagne, on est dans une agriculture familiale.
D'accord.
Toujours.
Alors moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un petit tour au Sénégal. Parce que là, il y a un mot qui va être très intéressant, c'est celui de micro-jardinage. Et on va rejoindre une femme qui s'appelle Oumi Sek. Et Oumi donc, préside et anime le centre d'écoute et d'encadrement pour un développement durable. Alors nous sommes à Thiès. Thiès est à 70 km à l'est de Dakar. C'est la deuxième ville du Sénégal. Donc on est dans un milieu... urbain et donc en périphérie. Et puis donc 350 femmes pauvres ont été initiées donc avec un objectif alimentaire qui est très très fort. Donc Oumi Sek, racontez-nous.
Nous intervenons dans le microjardinage, qui est une technique de l'agriculture urbaine qui permet aux familles d'avoir des légumes, de s'approvisionner en légumes à des coûts très abordables. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'achètent pas. Mais c'est une pratique qui leur permet de s'approvisionner et de produire ce qui est en soi.
Alors ça se passe à quel endroit? En fait, le moindre petit espace de terre peut être accaparé, c'est ça, entre deux maisons?
C'est dans la maison même, ce sont les espaces.
Ah.
Ce sont les espaces, les cours, ce que nous appelons nos terrasses, c'est-à-dire sur le toit. Donc tous les espaces qui sont au niveau de l'espace familial, nous l'exploitons pour faire cette technique d'agriculture qui est le micro-jardinage. Et ça nous permet d'avoir une diversité de légumes. On n'a pas de problème d'eau dans la mesure où nous utilisons l'eau des maisons. Les semences, ce sont les semences qu'on utilise partout dans l'agriculture. Et la technique, les femmes les maîtrisent parce que depuis 2010, on avait reçu le prix de la Fondation Ensemble qui nous avait permis de réaliser un programme en 2012 d'initier plus de 300 femmes dans la commune de Thiès dans cette pratique du micro-jardinage.
Alors, micro-jardinage, ça veut dire que ça peut se faire donc, sur 1 mètre carré, par exemple?
Bien sûr, bien sûr. Dans la mesure où, non seulement c'est une culture hors sol, c'est des conteneurs en bois qu'elles fabriquent elles-mêmes, qu'on les a appris à fabriquer. Donc, avec ces différents supports, la plante arrive à se développer et à produire. Il y a une autre technique qu'on appelle substrat liquide. Là, on met les plantes bouturées sur un support avec de la polystyrène enveloppée à la mousse et la plante se développe. Une autre méthode, c'est les méthodes alternatives qui permettent à ces femmes d'utiliser tous les conteneurs plastiques qui ne sont plus utilisables, soit au niveau de la famille ou bien dans d'autres endroits parce que c'est troué ou bien ça ne fait plus l'affaire. Il y a aussi les pneus qui leur permettent de découper les pneus suivant un système,
oui.
De mettre de la toile noire pour conserver l'humidité afin d'utiliser le minimum d'eau pour permettre à la plante de se développer.
Et bien sûr, il y a tous les savoirs locaux qui sont repris. Et puis, on fait du compost. Et là, ce n'est pas rien parce que le problème des déchets chez vous est crucial.
Voilà, c'est pour vous dire combien cette activité est transversale. Elle est transversale dans la mesure où elle règle les problèmes sanitaires, les problèmes d'alimentation, mais aussi les problèmes environnementaux. Et c'est là où intervient le compostage des ordures ménagères.
Alors Oumi Seck, on sait très bien qu'au Sénégal et dans une grande partie de l'Afrique, malheureusement, donc, il y a une très forte mortalité des enfants en bas âge. En quoi ce programme, ce micro-jardinage, permet aussi de limiter parfois cette mortalité?
Voilà, ça c'est une bonne question. Dans la mesure où nous, bien avant qu'on fasse cette activité, on intervient dans la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes, les personnes âgées en ce qui concerne leur alimentation. C'est en faisant cette activité-là que nous nous sommes rendus compte que le micro-jardinage pourrait être une réponse par rapport à ces préoccupations-là, dans la mesure où ça va permettre aux familles d'avoir un certain équilibre autour du bol alimentaire. Et dans ce bol alimentaire, les enfants de 0 à 5 ans qui ne peuvent rien faire pour eux-mêmes sont pris en charge parce que la famille arrive à se nourrir de manière équilibrée, mais aussi à avoir, par la vente de ce surplus, de quoi acheter les compléments d'aliments au niveau de la famille.
Qu'est-ce qui a changé sur le terrain au MISEC depuis que ce micro-jardinage existe?
Beaucoup de choses. Dans la mesure où actuellement, on est en train, nous, de réconcilier à notre façon l'homme et la nature. On est en train de faire revenir ces vieilles habitudes de potager dans les familles. On est en train de permettre aux établissements scolaires qui sont autour de nous de faire revivre cet esprit de jardin à l'école qui permettait aux enseignants d'avoir une pratique de par la pédagogie au niveau des élèves. Nous sommes en train de faire développer cette activité-là autour de beaucoup de points qui étaient un peu en somnolence. Parce qu'au niveau du CED, quand même, il faut dire que la majeure partie des femmes qui sont dans cette association sont analphabètes. Maintenant, c'est pour qu'elles croient en elles-mêmes, qu'elles sachent que ce n'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école qu'on ne peut pas se prendre en charge, qu'on ne peut pas avoir une autonomie sur le plan financier, sur le plan économique. C'était vraiment une façon de valoriser leur savoir-faire, une façon de faire preuve comme quoi que le développement local, c'est une affaire de tout un chacun. Que ce soit les femmes, les hommes, les petits, les grands, comme on dit, les jeunes, tout le monde doit s'y impliquer.
Merci à vous, Oumi Seck, donc pour ces mots. Vous avez obtenu le prix de la Fondation de France pour une alimentation durable et responsable. Il faut le dire, la Fondation de France qui donc a primé des initiatives tout à fait innovantes dans ce domaine et puis qui a été un acteur cette année très impliqué dans cette année internationale donc de l'agriculture familiale. Et puis je tiens aussi à moi tirer un coup de chapeau à une association qui s'appelle Soukali. Alors tout ceci, on vous l'a mis sur le site de CO2 Mon Amour. En Wolof, Soukali, eh bien ça veut dire développement, ça veut dire émergence. À la tête, il y a un homme qui s'appelle Pierre Tibéri et qui a donc beaucoup aidé aussi l'association d'Oumi Seck, donc le CED, le Centre d'écoute et d'encadrement pour un développement durable. Donc, ils ont mis vraiment tout un réseau en action et c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être une réaction, Henri Rouillé-Dorfeuille, sur ce que vous venez d'entendre.
Je trouve que c'est une très belle expérience avec un résultat très, très concret de nourrir convenablement une famille. C'est quelque chose de... Le potager, Ça a eu une importance historique, hein, ça a un peu disparu. Mais on est en train de retrouver cette vertu. On est en train de retrouver aussi la possibilité de créer de l'emploi avec des surfaces, de très petites surfaces. Il y a des tas d'expériences actuellement en France. Évidemment, c'est mieux dans la périphérie des villes parce que ça permet de faire du maraîchage et d'avoir des produits qui se vendent mieux, hein, bien sûr. sûr qu'il est plus cher, mais c'est quelque chose de très important. C'est très important aussi pour les enfants d'apprendre, de voir d'où vient la nourriture qu'on mange. Elle vient pas seulement du supermarché. C'est très important pour comprendre le mécanisme de la vie, enfin tout ce qui tourne autour du jardin.
Alors les enfants, faut s'en occuper dès le plus jeune âge. Alors il faut leur raconter des histoires, ce que va faire aussi François Le Tourneux. Mais nous allons rejoindre Florence Boucard, qui est ingénieure horticole et qui est aussi animatrice de Terre des Sciences. Alors nous sommes dans l'agglomération d'Angers, et quand je dis au plus jeune âge, ça veut dire aussi dès l'école. Alors racontez-nous ce que vous faites, que ça nous intéresse bien, Florence Boucard. Donc Terre des Sciences est un centre de culture scientifique et technique.
Bonjour à vous tous. Oui, effectivement. Donc au sein de Terre des Sciences, qui est un centre de culture scientifique, technique et industrielle, on propose des activités de culture scientifique auprès du grand public et des scolaires. On amène les enfants à réfléchir sur le végétal et bien sûr avec la finalité de leur faire pratiquer le jardinage.
Alors les jardins sont au cœur aussi des écoles ou à l'extérieur ?
Dans l'enceinte de l'école. Donc après, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être ce qu'on appelle du jardin pleine terre, ou ça peut être aussi des jardins qu'on appelle hors sol, qui sont présentés sous forme de palox. Donc ce sont des gros bacs en bois d'un mètre cube environ.
Alors qu'est-ce que vous voyez maintenant évoluer chez nos jeunes ? Parce que là vous avez des enfants, c'est à partir de quel âge que ça se passe ?
Alors en fait les activités qu'on propose touchent des enfants aussi bien de la maternelle que de l'élémentaire. Les objectifs sont en général à peu près les mêmes, c'est bien de leur faire comprendre ce qu'est un végétal, comment ça fonctionne, quels sont ses besoins, pour les amener après à les faire pratiquer en fonction de l'âge et donc des capacités de l'enfant. Alors ça peut être par exemple une activité qui est autour du semis, par exemple, en fonction des saisons. On choisit ensemble avec les enfants quel type de variété on va pouvoir semer à l'époque où l'on est. Et puis ça peut après aller beaucoup plus loin pour des plus grands, pour des cycles 2 ou des cycles 3. On peut aborder par exemple la notion du fruit. Qu'est-ce qu'un fruit? Comment on identifie un fruit? La tomate, est-ce que c'est un fruit? Non, c'est pas un fruit. Oui, c'est un fruit. Donc voilà. Et à partir de ça, on suscite le questionnement pour après les amener à se dire, vous allez pouvoir semer et récolter aussi vos fruits. Et être acteur, faire du jardinage d'une part, si pour certains ils n'en ont jamais fait, découvrir en quoi ça consiste, et qu'ils aient aussi la satisfaction de pouvoir faire tout seul et d'avoir effectivement aussi un résultat.
Est-ce que ça fonctionne aussi bien avec des gamins de milieux défavorisés que favorisés ?
Eh bien oui, et fort heureusement pour eux. Il n'y a pas de distinction, j'ai envie de dire, sur ce niveau-là, puisque là, en l'occurrence, dans les écoles dans lesquelles Terre des Sciences intervient, eh bien il y a différents types d'enfants, et le point commun est bien celui-ci, l'intérêt et le questionnement de l'enfant, quel que soit le milieu dans lequel ils évoluent.
Et sur le France Inter, donc, .fr que vous connaissez bien, c'est au-de mon amour, jardindécole.fr, vous avez toutes les informations. Petite réaction, parce que ça vous tient extrêmement à cœur, ça aussi, Henri Rouillet d'Orfeuille.
Bah oui, moi je pense que à l'époque où on discute des rythmes scolaires et où parfois on entend dire que on sait pas quoi faire, on n'est pas compétent, etc. Je pense que l'idée qu'il y aurait une école, un jardin, que ce soit quasiment systématique, y compris en ville, y compris avec ce qu'ils appellent des palox, c'est-à-dire des petits casiers. À Madagascar, ils prennent des sacs de qu'on appelait de pommes de terre autrefois. Vous voyez, ils mettent un tube, ils mettent des cailloux dans le tube, ils bourrent de terre autour. Ils retirent le tube et puis ils plantent des légumes, ils sèment des légumes, des graines pour avoir, voyez, un sac en agriculture verticale, d'une certaine manière, en jardin vertical. Et ça, c'est à Madagascar. Bon, donc, je crois que ce serait très important d'avoir systématiquement dans les écoles un bout de jardin et un peu de jardinage.
Bah oui, c'est ce qu'avait commencé à faire à l'époque où il était aux affaires à Metz, Jean-Marie Pelt. On va revenir, mais on reste dans cette biodiversité avec vous, François Le Tourneux, ces chroniques du vivant. Alors là, on va aller sur un autre lieu. On va parler de lion, mais avant de parler de lion, on va parler de tigre. Alors ce tigre-là, on le sait, il est extrêmement convoité parce que paraît-il, lorsque l'on va broyer ses os à ce tigre, eh bien, on va avoir une virilité absolument débordante comme la corne de rhinocéros. Il ne faut pas croire ça du tout, les enfants, ça ne marche pas. Bon, quelle est cette histoire ?
Ouais, parmi les histoires, il y en a qui essayent de mettre au clair les nouveaux rapports de l'homme et de la nature, qui ont évidemment beaucoup changé et qui sont bien, bien déprimants. Comme l'objet des histoires, c'est de montrer que tout le vivant est solidaire. Et oui. Il n'y a pas un homme en face de la nature, mais un homme dans la nature qui ne vit pas sans sa flore intestinale, qui ne vit pas sans les légumes qu'il mange. Eh bien, on s'est intéressé au roi des animaux, c'est-à-dire au lion. Mais on s'est intéressé au lion en parlant du tigre, parce que comme tu l'as dit, le tigre était très utilisé en médecine traditionnelle chinoise. Du coup, il reste, on pense, 3500 tigres en liberté dans le monde, dont quelques dizaines seulement en Chine. J'ai dit en liberté, parce qu'il n'y a plus de tigres dans les zoos et les collections américaines qu'il n'y en a en liberté dans le monde, plus. Il y en a une grande quantité, et en Chine aussi, il y a beaucoup plus de tigres en captivité qu'il n'y en a en liberté. L'inconvénient de ces tigres en captivité, c'est qu'alors que les tigres sont différents d'un coin d'Asie à l'autre, et bien là, en captivité, on les croise comme on peut et on a n'importe quoi comme caractéristique de ces tigres, et leur éventuel hypothétique retour dans la nature poserait beaucoup de problèmes. Voilà que les Chinois interdisent, pour protéger leur dernier tigre, d'utiliser des os de tigre dans la médecine traditionnelle pour faire de la soupe de tigre. Et là-dessus, les Africains du Sud, les habitants de l'Afrique du Sud, se disent qu'il y a peut-être un marché. Parce que le lion, après tout, c'est proche du tigre.
Ah oui.
Donc ils font valider par les médecins traditionnels chinois que les os de lion, c'est un peu moins bien que les os de tigre, mais c'est quand même très bien.
Écoutez, pour le pot-au-feu, c'est à peu près le même goût.
Évidemment, évidemment, on ne va pas utiliser des lions en liberté en Afrique du Sud. Mais il y a énormément de lions en Afrique du Sud qui servent à une chose très simple. On les élève. Quand ils sont adultes, on les lâche dans la savane. Et des imbéciles payent très cher pour aller avec un pisteur, passer 3 jours sur la piste d'un lion qui vient d'être lâché. Ils le tuent, ils emportent la peau et le trophée, et ils laissent les os.
Ça rappelle les faisans que l'on lâche en Sologne, qui découvrent la liberté 24 heures avant. Quoi.
Voilà. Il restait les os qui n'étaient pas valorisés. Et voilà que l'éleveur qui a un zoo plus le prix de la chasse se trouve aussi amené à vendre les os de tigre pour la médecine chinoise. Voilà quels sont les nouveaux rapports que l'homme entretient avec le roi des animaux. Et voilà pourquoi parmi ces espèces emblématiques tant d'espèces qui sont au bord de la disparition, le tigre, mais aussi bien sûr les rhinocéros, les éléphants, etc.
Et d'où la fameuse liste rouge. Et d'ailleurs, le numéro de Terre Sauvage, hein, Vivre la Nature de décembre, son titre c'est SOS, sauvons nos espèces. Il y en a que l'on peut, je vous rassure, encore sauver, mais ça dégage quand même à une grande vitesse. Alors ne parlons pas des orang-outans, enfin si on en a beaucoup parlé dans différentes émissions sur Inter, et la forêt de Bornéo, avec tout ce que nous connaissons donc déjà, mais il y a énormément de choses quand même de cet acabit. Je vous propose un peu de musique. Oh oui, allons-y, vous allez voir, c'est très joli ça. Toujours sur France Inter.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took. But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Love me too.
C'était hier, c'était 1960, bien sûr, c'était Wonderful World, Sam Cooke sur France Inter. CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement. Henri Rouillé d'Orfeuille, lorsque l'on parle d'agriculture familiale, parfois c'est discrédité. Il n'y a pas cet exemple de modernité que nous connaissons tous, et pourtant il y a un véritable potentiel.
Oui, c'est vrai qu'il y a un discrédit qui est véhiculé par un certain nombre de grandes doctrines sur la modernisation de l'agriculture. C'est discrédité, enfin c'est pas nouveau. D'ailleurs, le paysan, c'était pas un compliment autrefois. En Afrique, un paysan, ça n'existe pas dans les statistiques. On considère que c'est pas un métier, que c'est pas une activité, que c'est simplement des gens qui s'occupent. Et puis peut-être un jour ils auront un vrai boulot, mais là c'est rien. Et donc comme je disais tout à l'heure, l'agriculture familiale c'est la base de l'alimentation, c'est 40% de l'emploi mondial, c'est la gestion de la nature pour la plupart des ressources naturelles. Donc il faut lutter contre ce discrédit. Et d'ailleurs notre année l'agriculture familiale a servi à ça. On a mis le projecteur et on a revalorisé. Les chercheurs ont beaucoup travaillé et produit cette année pour montrer que au contraire. L'agriculture étant multifonctionnelle, si elle veut satisfaire aux différentes fonctions, il n'y a rien de mieux que l'agriculture familiale. Alors, il y a un paradoxe, effectivement, parce qu'on dit il y a du potentiel, et en même temps, on constate que les agricultures familiales sont en crise, les paysans sont parfois miséreux, sont souvent obligés de quitter leurs terres, et donc il y a une sorte de contradiction entre le potentiel et la réalité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces agriculteurs-là sont abandonnés, sont pas accompagnés. Comme toute agriculture a besoin d'une sécurité foncière, on a besoin d'investissement et de crédit pour innover et se moderniser. On a besoin de recherche pour se transformer et on a besoin de marché. Et tout ça, au fond. Est écartelé, le foncier peut être accaparé, il est instable, l'investissement, non, il va vers les autres secteurs mieux perçus par les responsables. Je parle de la plupart des pays là, pas plus de crédit agricole, une recherche qui travaille sur un modèle plutôt d'agro-business, donc ils sont abandonnés. Voilà.
Alors c'est un peu ce que disait aussi Martine Laplante. Alors je vais vous la présenter, qui est la représentante des Amis de la Terre au Conseil économique, social et environnemental, bon, qui n'est pas un lieu de décision, mais qui est une très belle instance représentative d'une grande partie de la société. Et donc, cette semaine a été donc remis cet avis sur l'agriculture familiale. Donc, faisons le point avec vous, Martine Laplante.
On constate qu'il y a 805 millions de personnes dénutries dans le monde et 2 milliards qui sont carencées, ce qui est absolument énorme, et dont 75% de cette population-là est en milieu rural. Donc c'était tout l'intérêt de cette année internationale de l'agriculture familiale, de travailler sur les problématiques de ces populations-là.
Alors qu'est-ce que l'on voit comme initiative intéressante là, qui sont en train de ressortir, qui commencent à prendre sens ?
Alors, il y a des initiatives un petit peu dans tous les pays qui sont extrêmement intéressantes, mais il y a à côté de ça une tendance mondiale qui est absolument catastrophique. Et donc c'est par rapport à ça que nous avons voulu nous prononcer, notamment contre l'intégration de l'agriculture dans les accords internationaux, dans les accords de libre-échange, et nous demandons à ce que l'agriculture sorte des accords de libre-échange. Il me semble que c'est un point assez important porté par l'ensemble de la société civile française, puisque cet avis a été voté avec seulement 4 abstentions.
Alors il y a aussi l'accès aux semences. On en a déjà parlé de nombreuses fois dans cette émission. La libre semence, c'est pas exactement le cas.
Ah oui, alors là, ça a été le point qui a été difficile. Aux Amis de la Terre, nous sommes évidemment pour l'accès aux libres semences, mais ce n'était pas le cas de tout le monde dans la section. Mais on avait un accord quand même sur un point important, qui est la non-privatisation, la non-brevetabilité du vivant.
Qu'est-ce qui bloque globalement ? Parce que quand même, vous avez rappelé ces chiffres qui sont quand même très forts, et on va vous dire, oui, mais si on ne fait pas d'industrialisation, ça c'est le couplet que l'on connaît bien, eh bien on n'arrivera pas à nourrir la planète.
On est quand même arrivé d'accord sur ce point, que le fait qu'il faut industrialiser, intensifier pour nourrir la planète, c'est une idée fausse. Donc à partir de là, le problème de la nourriture dans le monde n'est pas un problème de quantité, mais un problème de répartition et de qualité. Donc c'est à partir de ça que nous avons fait nos préconisations, de sorte à reconnaître l'importance de tous les paysans, là je dis paysans même, hein, je dis plus exploitants agricoles, des plus petits, puisque l'agriculture familiale nourrit 80% de la population mondiale. Donc l'objectif c'est de faire vivre la famille et de les aider à produire un peu mieux peut-être, pour arriver à nourrir la communauté autour d'eux.
Et dans cet avis aussi, vous demandiez que l'agriculture soit mise en dehors des traités commerciaux, de l'OMC, de ce fameux accord de libre-échange négocié dans la plus grande opacité entre l'Europe et les États-Unis depuis juillet 2013 et présenté comme une dernière chance pour les Occidentaux de garder la main sur l'économie mondiale face aux pays émergents et face à la Chine, donc le fameux TAFTA, on pourra donc y revenir. Mais dites-nous quand même, Martine Laplante, à la fois la confiance en l'avenir et puis aussi donc les risques si on ne tient pas compte de cette agriculture familiale.
Je crois qu'on n'échappera pas quand même à cette prise de conscience que ces populations, si on continue à les affamer, d'une façon très cynique, si je puis dire, c'est celles-là qui franchissent les frontières. Et comme nous sommes dans une économie dans les pays du Nord qui commence à souffrir, hein, à atteindre ses limites, la limite du productivisme et du capitalisme, on y arrive, enfin. On voit cette peur monter de voir arriver ces populations chez nous, et le seul moyen de les garder chez eux, c'est de leur permettre d'y vivre, tout simplement.
Donc de se nourrir et de leur trouver du travail sur place.
Oui. Alors en dehors de l'aspect éthique qui serait le mien, il y a un pragmatisme qui va nous donner raison et nous permettre de faire avancer nos idées, je crois.
Merci à vous, Madame Laplante. Henri Rouillet-Dorfeuille, donc sur ce thème, et puis aussi sur la projection sur l'avenir, parce que c'est bon, on a une année de l'agriculture familiale, mais c'est quand même, ça va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on ne sait plus.
Bah juste un mot là sur un problème tout à fait essentiel qui est l'emploi, que soulignait Madame Laplante. Aujourd'hui, il nous manque 1 milliard d'emplois. Hein. C'est le chiffre que nous donne le Bureau international du travail partout dans le monde. Et à part quelques pays hyper rentiers, tout le monde a un problème d'emploi. D'ici 2050, il va y avoir 2 milliards de personnes de plus. Et d'ici 2050, on risque d'avoir une forte destruction de travail, à cause de bonnes raisons d'ailleurs parfois. Et la destruction de travail dans l'agriculture pourrait atteindre 2,5 milliards de personnes si on passe de 40% de l'humanité dans l'agriculture à 3%. 3%, c'est le modèle qu'on a, nous.
C'est
et c'est, s'il se répand à l'échelle du monde, vous voyez, ça
3%
fait...
de la population active.
Donc,
en France.
Si, on fait si on fait le total, il faudrait qu'on crée d'ici 2050 3,9 milliards d'emplois. Ce qui est impossible par rapport à ce qu'on a connu, et surtout dans une période où on n'est pas sûr qu'on va aller vers plus d'emplois. Alors évidemment, il y a tout un raisonnement derrière à faire, mais simplement pour dire que encourager le départ des agriculteurs aujourd'hui, c'est criminel. On ne peut pas les bloquer, s'ils veulent partir, ils ont la liberté de partir, mais avoir des politiques qui les encouragent, c'est quelque chose de criminel et de catastrophique. Alors, par rapport à...
Globalement, ça ne s'est jamais dit, mais je veux dire que pour la France, aujourd'hui on est autour de 500 000, on va dire, exploitations, mais le chiffre voulu par la Commission européenne est autour de 300, 350 000, pas plus.
Oui, hein, c'est-à-dire donc... qu'on dit, par exemple, on a dit l'Europe des 27 a perdu 20% de ses exploitations en 8 ans. Vous voyez, parce que nous, on pense à l'exode rural, on pense à l'Afrique, à l'Inde. Mais en Europe, 20% en 8 ans, c'est considérable.
Ça veut dire une concentration énorme.
Alors, ça veut dire une concentration énorme. Mais on dit, oui, bon, alors ça, c'est la Roumanie, c'est la Pologne. Pas du tout, aussi chez nous, c'est partout. Et donc, alors, si vous voulez, il n'y a pas de règle sur est-ce qu'il faut qu'il y ait 3% d'agriculteurs dans la population, ou 50 ou 80. La seule règle, c'est l'état du marché du travail. Et quand vous êtes dans un marché du travail où vous avez un déficit d'emploi considérable. Dans certains pays, il y a des banlieues terribles qui viennent de paysans chassés. Hein. Mais même chez nous, on a un problème d'emploi. On a des politiques sociales, heureusement, mais il y a un problème d'emploi. Et donc...
Dans
ces situations-là, encourager le départ de producteurs, ne pas faire tout ce qu'on peut pour installer des jeunes, est quelque chose d'incompréhensible.
Et puis, comme c'est un magazine de nature nature et d'environnement, vous le savez. Ça veut dire aussi que si on continue dans le productivisme, ça va être, une fois de plus, les dégâts dits collatéraux que nous allons donc payer, encore plus les uns les autres. Donc ça on connaît bien ce couplet. J'aimerais que nous terminions, François Le Tourneux, avec une très jolie histoire. Alors, soit vous avez le droit, vous avez le droit, entre la cochenille et le caféier, ou bien le mérion et le coucou.
Après ce qu'Henri a dit, j'ai envie de vous raconter plutôt l'histoire des cochenilles et du caféier.
Oui.
Parce que, en fin de compte, ce qui est intéressant dès qu'on se passionne pour le travail des chercheurs et puis pour la réalité, c'est à quel point la biodiversité, c'est passionnant parce que c'est compliqué. Or, l'agriculture productiviste, les fabricants d'engrais, les fabricants de pesticides proposent toujours des solutions simples. Mmh. Et ils ont toujours tort. Alors voilà l'histoire de la cochenille du caféier. Il y a sur les caféiers au Costa Rica, mais dans d'autres régions aussi, des cochenilles, c'est-à-dire des petits pucerons. Et ces petits pucerons, ils rendent le café inconsommable. Et d'ailleurs pas à cause des pucerons, à cause des champignons qui poussent sur les déjections des pucerons. Alors ça, bon, ça prouve déjà que ça commence à être compliqué. Et ces pucerons, c'est compliqué parce qu'ils sont évidemment élevés par des fourmis qui se nourrissent de leur miel-là.
Oui.
Alors les agriculteurs du Costa Rica, ils ont vu ça et immédiatement des producteurs de pesticides leur ont dit « Vous n'avez qu'à tuer tout ça et vous serez tranquille ». Sauf que les fourmis, elles défendent notamment les pucerons en mangeant des œufs et des larves de coccinelles, qui sans ça dévoreraient les pucerons et les élimineraient. Mais il se trouve que la fourmi, elle est parasitée par une petite mouche. Cette petite mouche, elle pond dans la fourmi et elle la tue. Mais la mouche, elle sait qu'elle doit pondre dans des fourmis vivantes. Donc quand la fourmi qui l'a compris voit arriver la mouche, elle fait la morte.
Ah,
elle se suspend par les pattes arrière et elle ne bouge plus sur la feuille. Émet un phéromone, une odeur, pour prévenir les autres fourmis d'en faire autant. Il se trouve que la coccinelle sent aussi cette odeur. Et que quand elle sent cette odeur, elle sait que les mouches qu'elle sait que les fourmis font les mortes pour échapper aux mouches. Donc la coccinelle, qui sait que les fourmis font les mortes, se précipite pour pondre sous les pucerons.
D'accord.
Elle pond sous les pucerons, les œufs se développent sous le puceron, les fourmis n'y voient rien, dévorent le puceron. Et alors, en éliminant les fourmis, on a privé les coccinelles de leur signal. Et comme les pucerons se reproduisent très vite, dès que l'insecticide a cessé de faire son effet, il y a eu des générations de pucerons, et les coccinelles ne sont jamais venues les dévorer. Alors il a fallu que les éleveurs du Costa Rica, qui sont enclins à ça, parce que c'est un pays où on encourage un peu l'agriculture familiale, et où on se méfie des Américains, et de leur, même si le Costa Rica est très sous influence américaine, il a fallu que les petits agriculteurs se disent c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des fourmis, des coccinelles, et un peu de pucerons, que plus du tout de café.
Voilà, écoutez, c'était l'histoire du billard à 25 bandes avec notre caféier, nos pucerons et nos cochenilles. En tout cas, merci à vous tous. Chronique du vivant, les aventures de la biodiversité, François Le Tourneux, Nathalie Fontrelle, chez Bûcher Chassel, donc avec plein d'histoires comme ça. Vous avez aussi beaucoup d'informations grâce à Anne Gouzon sur le site de CO2 Mon Amour, donc sur l'agriculture familiale. Merci à Jérôme Boulet, à Christophe Imbert, notre réalisateur, Albert Houck, Thierry Dupin qui a choisi les disques. Je vous retrouve, écoutez, Bol de Nature, c'est tous les vendredi à 6h25. L'Atu du Mont Petit-Loup, ce sera demain à 19h54. Et puis, la semaine prochaine, il y aura encore d'autres... on ne sait pas encore complètement ce qu'on va faire, mais je vous emmènerai un peu au pays des huîtres, sûrement. 01 56 40 40 35 01 56 40 40 35 le répondeur. Et le tweet, c'est tout simplement chez Sou.